Le grand témoin.
Bonjour et bon dimanche chez vous, grand témoin. Le plaisir de vous faire découvrir aujourd'hui Dr Richard Mukalenge-Chenda. Il est médecin spécialiste en santé publique, ancien médecin directeur de l'hôpital général de référence de Lukula au Bas-Congo. Dr Richard, c'est un plaisir de vous recevoir dans grand témoin.
Merci beaucoup. Moi aussi, j'ai le plaisir de répondre à votre invitation.
Alors, avec vous, dans cet entretien, nous parlerons de vous, de votre parcours en tant que médecin spécialiste en santé publique. Pourquoi avoir choisi de faire la médecine? Vous avez été aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, ancien médecin directeur de l'hôpital général de référence de Lukula au Bas-Congo.
Oui.
On parlera de votre passage dans cet hôpital.
Oui, ça sera bien aussi.
Voilà, de tout ce que vous avez apporté pour le développement de cet hôpital.
Oui, et surtout, j'avais répondu à une dynamique de cette époque-là. Monsieur le professeur Vundao Etepemako était ministre de l'Intérieur. C'est à cette époque-là aussi qu'on avait lancé un vocable politique décentralisation et territoriale de développement. C'est à cette époque que j'étais aussi nommé médecin directeur.
Alors, vous allez nous parler de la territoriale de développement telle que vous l'avez vécue à l'hôpital de Lukula.
Voilà.
Voilà, c'est tout à l'heure dans cette émission. Mais avant cela, on va faire un grand pas en arrière pour parler de votre enfance. Docteur Richard Mukalenge, vous êtes né où et quand?
Je suis né à Kikwit, le 6 novembre 1952.
Et c'est à Kikwit où vous avez grandi, où vous avez passé votre enfance?
Non, je suis né là-bas parce que mon papa travaillait dans les huileries du Congo belge, HCB. Et c'est là où, après avoir quitté la mission Mikalaï, là où il était enseignant, il enseignait là-bas, il a choisi d'aller travailler dans le Bandundu, dans les huileries du Congo belge. C'est là où je suis né. Je suis arrivé à Kinshasa, mon père me dit j'avais un an et je crois 6 mois, et mon jeune frère avait quelques mois.
Alors, à Kinshasa, parce que votre père avait été muté?
Oui, il avait été muté parce que on venait de créer les écoles officielles, ou ce qu'on appelait laïques. Alors, il avait été choisi pour travailler comme enseignant dans les écoles laïques.
Et donc, vous êtes né à Kikwit, vous avez grandi à Kinshasa.
À Kinshasa.
Alors, vous avez étudié où?
J'ai étudié, l'école primaire, c'était à l'école métropolitaine de Limété, qu'on appelait à l'époque... le prolongement de l'Athénée de Kalina. C'est juste derrière la maison communale de Limété, en face de l'école Massamba.
Là, c'est pour l'école primaire.
Oui, c'est là où j'ai fait l'école primaire.
Et les humanités?
J'ai fait ça à l'Athénée de Lingwala ou Saint-Jean. Et avant les humanités, j'ai fait le CO Angili. CO Angili, à côté de la régie des eaux, plus ou moins en face de l'hôpital du quartier 7 qu'on appelle Istem.
Vous avez fait les humanités scientifiques?
Oui, j'ai fait les humanités scientifiques, plus spécialement la section biochimie.
Pourquoi ce choix?
Bon, c'est venu comme ça. Et quand j'ai embrassé cette section, j'avais compris que la biochimie, à l'époque-là, c'était les beignets que ma mère faisait, c'était les chibouku que ma mère faisait, c'était aussi le lotoko, parce que ma mère a produit ça avec le chibouku, c'était la biochimie. Et puis, elle a vendu aussi pour aider mon père. Vous voyez, l'enseignant, sa situation sociale était bonne pendant l'indépendance, mais après l'indépendance, c'était comme maintenant. Elle devait vendre. Elle a vendu aussi ce qu'on appelle le potopotangaï ou la bouillie aigre. Donc, j'ai compris que c'était la biochimie et j'ai beaucoup aimé ça. Et moi-même, j'ai été initié à préparer toutes ces choses.
Par voilà. Votre mère?
Par ma mère, par mon père aussi. Mon père aimait beaucoup aussi fabriquer tout ce qu'il pouvait fabriquer, le pain au lait, gâteau au sorgho, des choses comme ça. Et voilà, j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé que tiens, la biochimie, c'est ça. Voilà.
À l'université, vous faites la médecine?
Oui, à l'université, j'ai fait la médecine, je peux dire par accident. Pourquoi? Parce que mes premiers amours, ce n'était pas la médecine. J'ai aimé devenir agronome. Mais c'est la famille qui m'avait découragé. On a dit, mais un beau garçon brun comme toi, tu vas aller en forêt. Ben, je me suis dit, mais quel choix vais-je faire? Après, j'ai dit, non, je vais faire la pharmacie. Quelle pharmacie? Tu seras vendeur devant le comptoir comme un épicier. Et après, j'ai dit, mais tiens, qu'est-ce que ces gens veulent que je fasse? Et puis après, comme ma mère faisait souvent des maux de tête, qu'on appelle migraine aujourd'hui, j'ai compris qu'ils étaient des migraines. Peut-être parce que la vie d'enseignant était celle qu'elle menait là. Elle devait se réveiller à 5 heures du matin pour aller vendre les beignets, etc., pour nouer le deux bouts de moi, pour donner aussi de l'argent à son fils pour qu'il puisse acheter l'abonnement pour aller en bus scolaire là où il étudiait. Alors, je crois que c'est à cause de ça qu'il avait des migraines. Je me suis dit, bon, si je dis que je veux faire la médecine, tout le monde va accepter.
Et donc, vous avez été un peu influencé par votre famille.
Bien sûr, mais je ne regrette pas ce choix. C'est pourquoi quand vous regardez ma carte de visite, vous allez voir que j'ai fait l'apiculture, j'ai fait l'élevage bio, j'ai fait l'agriculture bio, j'ai fait la transformation de produits agroalimentaires. C'est comme si mes premiers amours me poursuivent jusqu'à aujourd'hui. Okay? Mais ce n'est pas pour m'écraser, c'est pour m'enrichir aussi et créer ce que moi j'appelle des passerelles de collaboration avec les agronomes, les apiculteurs, etc. Pourquoi? Parce que j'ai compris aussi en terminant cette médecine que cette médecine était vide. Il fallait la remplir.
Comment ça, vide?
Ben, écoutez, lorsque un médecin pose le diagnostic de malnutrition, qu'est-ce qu'il fait après? Il écrit, à la fin de son constat, donc il pose le diagnostic, il écrit alimentation équilibrée. Mais il ne donne pas la composition. Il ne donne pas. Mais il réfère aussi à qui? En principe, à personne. Il dit à la famille, nourrissez bien l'enfant. Mais moi, je voudrais aujourd'hui que le médecin, quand il pose le diagnostic de la malnutrition, qu'il dise à son patient, allez voir tel monsieur, allez voir telle personne. Okay? Je vais vous raconter ce que j'avais vécu quand j'ai fini ma médecine ici. Je devais préparer ma valise pour rejoindre mon poste. Je savais que je partirais à l'intérieur, sans savoir où. Alors, dans une de mes consultations que je faisais à côté d'un aîné, j'avais reçu un garçon qui était malade. Sa maladie, selon ce que j'ai trouvé, à l'époque là j'avais trouvé, c'était la malnutrition. Je lui avais prescrit un plateau, il devait consommer les œufs, donc un plateau, ok. J'ai prescrit aussi 10 poules et un coq. Cette famille s'était emportée contre moi et m'avait conduit à la gendarmerie comme faux médecin. Dieu merci pour moi. J'ai consulté un aîné qui est venu à mon secours. Et cet aîné a dit, mais c'est ça le traitement. Ce garçon avait quoi? Avait deux œdèmes de membres inférieurs, avait une haleine courte et une anémie. Quand j'ai consulté, j'ai dit, mais...
Les 10 poules et le coq, c'était ça le remède pour soigner
d'abord
les sa maladie?
Les œufs pour inverser. C'est ce que je voyais, c'est-à-dire, les médecins savent ça, pour inverser le sens de la pression sanguine qui faisait sortir le sérum dans les tissus. Voilà, inverser ce qu'on appelle la pression osmotique. J'ai prescrit 10 poules et un coq pour que la famille commence à produire les œufs. Voilà, voilà.
Ah, c'était ça l'idée.
C'est ça l'idée.
Ok.
Alors, maintenant, j'étais traité de fou. On a dit, mais ça, c'est quel médecin qui prescrit comme ça?
Mais après, est-ce que cette famille a suivi votre conseil, vos conseils?
Après, la famille avait suivi le conseil, après que... j'ai été blanchi. La gendarmerie m'a blanchi. C'était la gendarmerie de Bandal, m'avait blanchi. Et puis après, la famille a demandé pardon. Et puis ils m'ont demandé, tu as étudié où? J'ai dit, ici à l'Unique. Il dit, non, toi tu ne réfléchis pas comme tous les autres médecins. Nous, on nous avait dit, il devait bénéficier des antibiotiques parce qu'il toussait. J'ai dit, non. Il n'avait pas de protéines, c'est pourquoi le liquide, donc le sérum est allé dans les tissus, le sérum est allé dans les poumons.
Voilà. Alors, docteur Richard Moukialenge, quel est le souvenir que vous avez le plus marqué pendant votre enfance?
Oh là là, il y en a beaucoup. D'abord, la visite des blancs dans notre famille. Lorsque mon père nous avait inscrits dans les écoles où allaient les blancs, ok? Vous savez qu'à l'école métropolitaine de Limité, il n'y avait que des blancs et puis il y avait très peu de noirs. C'était les enfants des évolués. Nous avions vu... les blanches venaient visiter la maison. C'était, avec le temps, j'ai compris, par la bouche de mon père, c'était les assistantes sociales. Parce qu'on n'admettait pas n'importe qui. Ça, c'est un. Deuxièmement, nous allions au contrôle médical régulièrement à l'Ophanion. Voilà. Ok. Troisièmement...
C'était obligatoire?
C'était obligatoire. Dans le cadre de la médecine scolaire. Voilà. Obligatoirement, nous allions au contrôle médical, je crois une fois par trimestre. Ok. Et troisièmement, pendant la récréation, on mangeait quelque chose. Moi, j'avais choisi le lait au chocolat avec des gâteaux. On prenait ça pendant la... Et avec le temps, mon père m'a dit que ça venait d'une entreprise qui vendait les produits alimentaires transformés. C'était Sarma Congo. Voilà, voilà.
Ça n'existe plus aujourd'hui dans nos écoles.
Non, ça n'existe plus. Voilà. Et j'allais à l'école en bus scolaire. Je rentrais en bus scolaire 4 fois par jour. C'est-à-dire le matin, nous partons. À midi, non, vers 11h, nous sortons pour aller manger, se reposer un peu. À 14h, le bus scolaire nous prenait pour aller étudier, donc de 14h à 17h. Et à 17h, on nous retournait à la maison. Et puis chaque mercredi...
La vie était belle, quoi.
Et la vie était belle, en tout cas. Voilà. Et chaque mercredi, nous avions le devoir d'aller au complexe sportif ou culturel de la Founa. Là, il y avait la piscine, il y avait... Donc, chacun choisissait ce qu'il pouvait faire. Moi, j'aimais beaucoup la natation. J'aimais beaucoup aussi faire la course. Et voilà. Voilà les souvenirs que j'ai retenus. Voilà. Et j'étais voisin des Blancs à l'école. Voisin des Blancs.
Vous avez étudié avec des Blancs.
Mais c'est ça.
C'était voilà. Un privilège.
C'était un privilège. Et mes enseignants étaient des... Le premier enseignant, d'abord tous mes enseignants, sauf un, c'était des Blanches, c'était des Blancs, ok. Et la première, c'était Madame Jopin. Elle était une femme très chic. Nous l'appelions à l'époque la femme de pilote parce que elle s'habillait, quand elle était en bleu, c'est de la tête jusqu'aux pieds. C'est-à-dire sac, chaussures, elle était toujours en veston ou veste avec un petit bonnet, tout ça. Quand elle est en rouge bordeaux, c'était jusqu'au niveau du sac. Hein? Voilà. Est-ce qu'elle ne m'a pas influencé? Devant vous, je suis en beige jusqu'aux chaussures. Jusque dans les chaussettes. Voilà.
D'accord.
Voilà. Merci. Voilà les souvenirs que j'ai gardés. Voilà.
Docteur Richard, c'est quoi votre plat préféré?
Bon, moi je prends tout. Mais j'aime beaucoup le poisson. J'aime les légumes et j'aime les insectes. Ok? Les insectes, pourquoi? Parce que avec l'évolution de ma culture, j'ai compris que 1 kilo d'insectes regorge 60% de protéines. Par contre, 1 kilo de filet, je crois, américain, c'est 15%. Donc le choix pour moi, comme je suis médecin, ce sont les insectes. Donc chenilles, criquets, grillons, etc. Voilà. Donc je consomme tout. Pourquoi tout? C'est parce que vous serez étonnés. C'est dans l'enfance que j'ai compris que je devais connaître les 4 langues du Congo. Et derrière les langues, je m'étais affectionné, donc je me suis affectionné jusqu'à aujourd'hui à chercher la richesse que regorge la langue. C'est ainsi que, déjà dans l'enfance, nous avons introduit le Fumbo à la maison. Alors que dans une famille Luba, le Fumbo n'était pas admis à l'époque-là. Nous avons introduit le Mbala Makoko, ou le Kolokas, ou le Taro, etc. Donc, derrière chaque langue, j'ai pu m'enrichir par rapport à la culture alimentaire.
Qu'est-ce que vous n'aimez pas dans la vie, docteur Richard?
Je déteste les intrigues. Je déteste le mensonge. Je déteste l'injustice. Je n'aime pas ça. Et d'ailleurs, je crois que c'est mon père qui m'a influencé. Il n'aimait pas que je lise les romans policiers. Il me disait, je ne veux pas que tu deviennes mauvais. Je ne veux pas que tu connaisses les intrigues. Et il a fait de moi un de ses enfants chéris, parce qu'il voulait même que je devienne prêtre. Okay? Donc j'étais l'acheteur de ses journaux, je lisais les journaux avec lui, je lisais ce que lui lisait, et je me rends compte qu'il aimait beaucoup lire les Nouveaux Horizons. Okay? Et là-dedans, j'ai même aimé tout ce qui était américain, donc le gigantisme américain. On a montré comment il faisait des grands champs, comment ils construisaient des grandes maisons, les buildings, les gratte-ciel. Hein? Nous, on croyait dans le temps, c'était des maisons qui grattaient le ciel par leur hauteur. Voilà. J'ai beaucoup aimé la lecture de mon père. J'ai lu beaucoup de choses avec lui. Uh-huh. Et pas le roman policier.
Voilà. Parce que je ne voulais pas que vous puissiez lire ça.
Il n'aimait pas je connaisse les intrigues. Uh-huh. Ça, il n'aimait pas. Ça, il m'a dit. Voilà.
Marié, père de combien d'enfants?
Marié. Légalement, père de 5 enfants, 4 filles, un garçon.
Est-ce que votre nom a une signification particulière?
Oui. Mukaleng signifie chef. Tchenda, c'est un pèlerin. Ok? D'ailleurs, c'est écourté. Il y a Moulami, ça dit protecteur. Et puis, il y a une suite. Donc, Mukaleng Wabakaleng. Donc, le roi des rois. Je suis de la lignée des rois. Mon père, c'est un roi. Voilà. Il fut un roi. Nous sommes du royaume. Ok? Quand vous arrivez chez nous, dans les Kasaï occidentales, à Kazumba, et plus précisément dans le village d'Ibwe Wantumba, mon père est roi. Voilà. Alors.
Donc vous êtes issu d'une famille royale.
Ok, d'une famille royale. Et j'ai vu des notabilités à l'époque comme André-Guillaume Lubaya, il fut même ministre de la Santé publique, qui venait voir mon père et il s'avançait vers lui à genoux. Il venait chercher le loup Pemba. Voilà, c'est ce que je connais. C'est ce que j'ai vu. Donc, voilà ce que signifie mon nom. Je suis roi parmi les rois. Ok? Je suis pèlerin protecteur. Voilà, c'est ce que signifie mon nom.
Radio Capi, grand témoin.
Le grand témoin vous présente aujourd'hui Dr Richard Mukalenge Tchenda, il est médecin spécialiste en santé publique, ancien médecin directeur de l'hôpital général de référence de Lukula au Bas-Congo, dans le Bas-Fleuve. Alors Dr Richard, après vos études universitaires, vous avez directement commencé à travailler?
Oui, j'avais commencé directement à travailler. Pourquoi? Parce que la spécialisation ne m'attirait pas directement. Je voulais aller goûter à la pratique médicale très tôt. Et d'ailleurs, pour faire la spécialisation ici chez nous, il fallait justifier d'une expérience d'au moins 4 ans de terrain. Ce n'est pas comme aujourd'hui, aussitôt terminé, le lendemain, on commence la spécialisation. Voilà. Alors, je suis allé très tôt travailler comme médecin de l'État. J'avais commencé par Matadi. De Matadi, on m'a propulsé vers Boma. De Boma, je suis atterri pour faire trois mois.
C'est l'État qui vous a envoyé.
L'État m'avait envoyé. Et je suis parti, j'ai obéi. Et je n'avais pas aussi de salaire. Hein. Voilà.
Donc c'était du bénévolat que vous faisiez?
Non, ce n'est pas le bénévolat, mais on obéissait. On nous disait, dès que vous arrivez sur le terrain, celui qui vous reçoit signale votre présence là-bas et on régularise tout. Mais ce n'était pas vrai parce qu'il y a des arriérés que je réclame à l'État. J'ai fait.
Mais comment vous viviez alors?
Je vivais avec les revenus de l'hôpital, ce qu'on appelle les honoraires. Et j'avais trouvé aussi des aînés qui avaient des contrats qu'ils avaient signés avec des formations médicales, des entreprises qui avaient des formations médicales. Et je pouvais, en l'absence de cet aîné à cet endroit, ils m'envoyaient pour faire la suppléance. Donc je prenais ces heures et puis. Bon, il s'arrangeait pour me satisfaire aussi. Voilà, voilà comment j'ai vécu. Même quand
ça ne vous a pas découragé un peu, que l'État ne vous payait pas?
Non, ce n'est pas ma nature. J'étais à mon poste. Ok? Et surtout, je fus encouragé par l'ancien secrétaire général Bopenda Bonkoumou. Lorsqu'il était directeur de première direction, il disait « Vous aurez plus de grades que les autres qui attendent de travailler à Kinshasa. » Restez à votre poste, endurez, bravez la souffrance, vous deviendrez grand. Voilà. Donc, je salue cette personne. C'était dur, mais j'ai vécu
vous
ça.
Vous avez tenu quand même.
J'ai tenu. Je vivais avec le peu des choses que l'hôpital donnait, mais je n'étais pas resté à ce niveau-là. Parce que, vous serez étonné, moi j'ai vendu la banane. Planté à Kinshasa, j'ai vendu la banane sucrée à Kinshasa. J'ai fait la campagne de maïs, j'ai vendu le maïs à Kinshasa pour tenir le coup. J'ai vendu aussi, parce que j'étais à Mwanda, tout ce qui sortait de Mwanda là-bas comme matériel de radiographie, ok, j'ai vendu ça à Kinshasa. J'achetais et puis je revendais ici pour vivre. Sinon, j'allais craquer. C'est ça.
Voilà. Et donc, vous avez travaillé à Matadi
Matadi, Boma, et puis Mwanda. Mwanda, c'est là où j'ai fait, je crois, 4 ans avant d'aller à Lukula, ouais, comme médecin directeur. Voilà.
Donc vous avez beaucoup plus travaillé dans le Bas-Congo.
Beaucoup plus dans les Bas-Congo, voilà. Donc beaucoup plus dans les Bas-Congo qu'ailleurs. Si j'ai les souvenirs, par exemple, de Mbandaka, c'est parce que j'ai fait la pré-université là-bas. Si j'ai d'autres souvenirs par rapport à d'autres provinces, c'est parce que j'ai peut-être séjourné là-bas en escale d'avion ou en visite. Ok, voilà. Je connais beaucoup plus le Bas-Congo.
Alors, lorsque vous avez travaillé à Matadi, par exemple, les conditions, hormis le salaire qui ne venait pas, mais les conditions du travail étaient comment? Vous aviez des équipements nécessaires?
Oui, le premier équipement, c'était mon stéthoscope et mon tensiomètre. Ça, c'était le premier équipement. Et les autres, c'était quoi? Le laboratoire de l'hôpital et le service de radiographie.
Il était bien équipé?
Parfois, ces histoires-là étaient en panne. Mais c'était ça ce que j'avais remarqué. Ok? Les premiers équipements, c'était ça. Voilà, et je me suis adonné au travail comme les aînés que j'avais trouvés là. Et surtout, je les écoutais pour que je puisse aussi me faire la main. C'était ça.
Ça a commencé depuis longtemps, le fait que nos hôpitaux ne sont pas bien équipés.
Oui, c'est depuis longtemps. C'est depuis longtemps. Pourquoi? Parce que partout où je suis allé, je n'ai pas trouvé des roses en cours de route. J'ai vu les épines des roses. Là, il fallait se débrouiller aussi. C'est comme...
Et c'était à cause de quoi, selon vous?
Je prends par exemple l'hôpital de Lukula. J'arrive à la tête de l'hôpital de Lukula, il n'y avait pas de subside. Le médecin inspecteur sous-régional m'a dit, ne réclame pas ces choses. J'ai demandé pourquoi. Il dit, mais ça s'arrête à Tchela. Ça, c'est un. Deuxièmement, je lui ai dit, mais on me donne un poste comme ça. Et puis, voici les problèmes de l'hôpital. Il me dit, toi au moins, tu as épinglé les problèmes de l'hôpital. C'est à toi maintenant de chercher des solutions. C'est à toi de proposer des solutions. Alors, j'avais étiqueté la situation que j'avais trouvée à Mwanda. C'était, à Lukula plutôt, une vache maigre qui a une peau sale. Donc, la vache ne peut même pas donner la chair. Il fallait nourrir cette vache pour l'engraisser et soigner cette peau-là. Pour avoir demain un bon cuir si on abattait la vache. Alors, le médecin inspecteur m'a dit, docteur Mukalenge, après ici, tu dois faire la santé publique. Tu es un concepteur. Avec tout ce que tu as présenté là, le diagnostic, les solutions, mais tu es un concepteur. Voilà. Alors, dans le cheminement, dans les solutions, c'était quoi? C'était, la première chose, c'était de renforcer le côté moral du personnel. Deuxième chose, nous avons eu à l'habiller. Il n'avait pas de tenue pour travailler. Troisième chose, j'ai équipé l'hôpital avec le comité de gestion parce que nous étions incapables de faire deux interventions.
Avec quels moyens? Puisque
les recettes de l'hôpital.
Ok.
Ok. Parce que je ne sais pas si on a changé les choses. Il y a un arrêté du ministre de la Santé de l'époque qui répartissait la valeur d'un acte. Par exemple, je prends l'appendicectomie. Ok, si ça coûtait 100 francs, 40 francs c'était les honoraires des médecins dans un pool commun, 40 francs autres restants c'était pour les paramédicaux, et les 20 francs restants c'était pour le fonctionnement de l'hôpital. Alors c'est sur le fonctionnement de l'hôpital que nous mettions la main pour faire tout ce que nous avons fait là. Nous avons équipé l'hôpital en tenue, surtout des salles d'ordre, parce que une mauvaise nouvelle m'avait accueilli là-bas. L'épouse d'un confrère n'était pas admise dans dans l'hôpital de son mari. Cette épouse est allée, cette femme, paix à son âme, est allée mourir dans un autre hôpital, mais avec, comme on appelle, la rupture utérine. La matrice avait éclaté en cours de route. Voilà. Donc l'hôpital n'avait pas assez de linge pour organiser les interventions localement. J'ai donné à chaque médecin l'autonomie de faire même 10 interventions. Ok. Donc 10 interventions, chacun avait son kit d'intervention. Nous avons arrangé la chaîne de stérilisation. Ok. Nous avons aussi cherché à équiper l'hôpital en médicaments de première nécessité.
Vous avez redonné une nouvelle image à l'hôpital général de référence de Lukula.
De Lukula. Et nous avons aussi fait le plan de réhabilitation profonde. Là-dedans, dans la réhabilitation profonde, il n'y avait pas seulement la peinture, tout ça à mettre, mais il fallait aussi dédoubler les pavillons. Parce que c'était un hôpital rural. Et qui dit hôpital rural, le malade du monde rural, quand il vient se faire soigner, il vient avec sa chèvre. il attend la guérison pour aller vendre la chèvre et payer les frais. Et la chèvre, on sort la chèvre, on l'attache la journée à un arbre, mais le soir, la chèvre rentre dans le pavillon avec son propriétaire. Alors, maintenant, quelqu'un qui parle français comme Kélin Kouté, qui est devant moi, sera dans quel pavillon? C'est ainsi qu'on a eu l'idée de créer aussi des pavillons VIP. Et nous avons, dans le cadre de la territoriale de développement, dans la décentralisation de cette époque-là, nous avons dit, ben, écoutez, nous allons bâtir. Voilà, ok. Je peux vous montrer la photo que j'ai.
Malheureusement, les auditeurs ne peuvent pas voir.
Nous avons fabriqué les briques, nous avons brûlé les briques et nous avons commencé le travail de construire cet hôpital. Alors, quand le gouverneur Kakule Bayingana était informé, paix à son âme, il est descendu à l'hôpital de Lukula. Il a dit, toi tu as compris.
Pour vous féliciter.
Mais oui, toi au moins tu as compris ce que c'était, ce que c'est la territoriale de développement dans la décentralisation. Et je ne suis pas resté là, ok. J'ai cherché aussi à enrichir l'alimentation des malades qui était faite de feuilles de manioc avec le taro, feuilles de manioc avec les bananes plantées, etc. J'ai apporté le soja, ok. L'hôpital achetait le soja à Bouma et après j'ai demandé si nous ne pouvions pas, nous, produire le soja. Pourquoi? Parce que j'avais trouvé à l'hôpital le médecin inspecteur sous-régional, le feu docteur Bouanga, avait commandé le moulin pour cet hôpital. Je lui ai demandé c'était pourquoi. Il m'a dit, bon, on voulait travailler avec les ONG. Je dis, mais moi, j'ai pris des contacts. On va me donner la semence pour planter le soja. Okay? J'ai contacté M. le bourgmestre qui m'a donné 4 hectares de terre. Voilà. J'ai travaillé.
Vous avez planté les soja.
Nous avons planté avec l'agronome de la commune, M. Ngeni, Makenga, que je salue, il est maintenant à Kizanvouette. Et nous avons planté le soja pour enrichir le régime alimentaire du malade. Pourquoi?
C'était gratuit, vous distribuez ça gratuitement au malade?
C'était vendu au guichet de l'hôpital. Même le personnel se gavait aussi de soja. Parce qu'ils avaient compris que ce monsieur, bon, c'est moi, Mukalenge, j'étais fort physiquement. J'étais là 24 heures sur 24. Les gens ne savaient pas quand est-ce que je me reposais. Ok. Il y a même un abbé qui a dit, mais toi, tu as le sacerdoce en toi. Hein, abbé Sambo.
Nous sommes en quelle année, là, docteur Richard?
En 88.
Et vous quittez cet hôpital en quelle année?
En 92.
En 92.
Voilà.
Pourquoi? Pour quelle raison?
Vous savez, quand Mobutu avait démocratisé, après son discours, les bêtes et bêtes, c'est-à-dire Bissona Bisso, où la territoriale tribalisée se mettait en place. J'avais trouvé que c'était dégueulasse de continuer à travailler.
Vous avez démissionné?
Non, je suis allé remettre le tablier, ok, chez le gouverneur. J'ai lui écrit pour qu'il puisse me déplacer. Et j'avais déjà pris des contacts avec, la première direction. Le secrétaire général de l'époque, M. Bopenda Bonkoumba, a dit non, mais faites ça et puis revenez ici. Okay? Et surtout, les gens étaient jaloux, ils se demandaient où est-ce qu'ils trouvaient l'argent pour bâtir au sein de l'hôpital. Et surtout, mes idées étaient appuyées par un monsieur qui était sous-régente, chargé des enseignements dans le bas-fleuve, M. Silou Matondo. Quand il a vu que j'étais en train de bâtir, il a dit, je viens te soutenir dans peu de temps. Il a mobilisé les écoles de Lukula pour me fournir les briques. J'ai eu à peu près 240 000 briques. Ok? Mais comme je partais, ces briques ont été utilisées pour construire l'item Lukula. Parce qu'on avait le problème de personnel. Nous avons trouvé les neveux de XY infirmiers qui administraient les soins sans être passés par l'école d'infirmières.
Okay? Alors on a construit l'item
Lukula. Oui, l'item Lukula, ouais. Avec les briques de l'hôpital de Lukula, les briques qui nous furent fournies par le sous-régène Silou Matondo, que je salue, et lui-même aussi, s'inspirant de notre expérience, a construit à Tchela le bâtiment propre de sous-régène.
Mais depuis que vous avez quitté cet hôpital-là en 92, est-ce que vous y avez fait un petit tour pour voir à quoi ça ressemble aujourd'hui?
Je ne suis pas rentré directement, mais j'y rentre par les contacts. Oui, quand je suis venu à Kinshasa, je suis allé à l'école de santé publique, aussitôt terminé, et c'était l'aventure internationale. l'hôpital.
Et qu'est-ce qu'ils vous disent que l'hôpital a changé, garde le même éclat que vous avez laissé ou
Je sais que la coopération belge est allée donner un coup de pouce là-bas. Et je sais aussi qu'on n'a pas présenté à la coopération belge le plan directeur d'aménagement de cet hôpital. Je fus soutenu aussi par une famille, la famille du feu passeur Kuelo, que je salue. Ce monsieur a fait le rapport à ses enfants qui sont à l'étranger jusqu'à aujourd'hui. Et les enfants n'ont pas hésité de mobiliser les Congolais, les ONG de la place là-bas pour nous envoyer le matériel.
Alors on va souffler un peu, docteur Richard. Comment vous passez vos moments de détente?
Les moments de détente, j'aime bien suivre la radio et surtout la radio qui informe et la radio qui berce aussi par les chansons.
Quel genre de chansons?
J'aime bien les chansons du genre chrétienne, okay, là où on me reproche quelque chose. J'aime bien me remettre en cause, okay, pour que demain je sois agréable.
Si on devait vous proposer quelque chose, une chanson, ça serait laquelle?
Allô de Mumbaya.
C'est allô, une chanson allô, de...
oui, qui reproche.
Qui téléphone nous...
Pardon?
Allô, téléphone, c'est
téléphone,
ça?
Oui. Ouais. Qui nous dit, parce, ce n'est pas parce qu'on ne te voit pas, tu dois mentir. Mm-hmm. Tu es à Matete et tu dis que tu es à Bandalungwa. Voilà, donc c'est pour dire que je n'aime pas aussi les intrigues, c'est pourquoi j'ai choisi cette chanson.
On va demander à la technique de nous balancer la chanson Allô téléphone de Charles Mumbaya qui nous a quitté, père
voilà.
Son âme,
oui. Pour le plaisir. Mais les artistes ne meurent pas.
Voilà, pour le plaisir de Dr Richard Mukalenge Tchenda qui est avec moi dans ce studio, mais aussi pour le plaisir de tous les auditeurs des Radio Capi qui nous suivent en ce moment partout en RDC et même à l'étranger grâce à notre site internet www.radiocapi.net. On se retrouve juste après pour la suite de notre entretien.
Allô, téléphone.
Oui.
Allô, téléphone.
Oui.
Et où t'es là, Lola? Tobongo la mité, maman, collègue, son encolo, et souba, ou yungu la bisona, ou yungu le bayaya. Allô Paris, envoie la taille. Je suis dérangé, tous les enfants étaient chassés de l'école aujourd'hui. Allô Bruxelles, fais-moi mandat, nous galérons ici, vraiment les temps sont devenus difficiles. Merci téléphone, c'est grâce à toi que je veux relier le bout du monde facilement. Merci téléphone, c'est encore toi qui me permet d'entrer en contact avec tous mes amis au pays.
Allô,
venga téléphone,
c'est
la nuit, la journée.
Allô,
téléphone, appelez les amis.
Allô,
téléphone, pour donner des nouvelles.
Allô,
téléphone, excusez en retard. Téléphone, annulez rendez-vous.
Allô,
téléphone, demandez renseignements.
Allô,
téléphone,
c'est
mes téléphones et tout ma question. Je suis choqué par les dégâts énormes que tu ne sais plus causer au pays. Je suis à Massina, on m'appelle, moi je réponds, je suis à l'Embakouba pour cacher vérité. Les enfants pas manger, je préfère acheter 4 heures pour appeler copains pour mes économies envolées. Je suis en météo, on m'appelle, je change de voix, la vie pour moi est vraiment devenue difficile.
Allô,
téléphone,
tu m'as oui,
même dans l'église,
allô,
tu as fait des dégâts, les pasteurs sur la chaîne, message arrêté, je fais en prière,
allô,
la moindre sonnerie, téléphone,
allô,
tu causes des dégâts, chauffeur au volant,
allô,
attention de tourner, élève en classe,
allô,
attention de tourner, téléphone, tu as changé, la vie des Chinois, tout le monde a préféré savoir que d'avoir provision à la maison. Les femmes de la rue ont trouvé en toi un canal pour détruire les couples et mettre les familles en péril. À cause de toi, le mensonge, les dirigeants, système dans toutes les couches aujourd'hui au pays. Partout tu es présent, dans nos salons, dans nos chambres à coucher et même quand nous sommes réunis en prière.
Allô,
téléphone, mensonge téléphonique,
c'est fini.
Nous délicotons, ton règne terminé.
Allô.
blague. Et ce téléphone, depuis que je l'ai, je suis devenu un menteur. Téléphone qui me rend un mauvais service. Mais comme je ne peux pas me séparer de toi, je vais faire attention pour ne pas trop mentir. Voilà.
Allô, allô,
allô, téléphone.
Mensonge
téléphone.
C'est fini.
C'est fini.
Son règne est terminé.
C'est
bon, bon, à Jésus.
C'est fini.
Allô, téléphone.
Allô, allô,
allô, téléphone.
C'est fini.
Désormais, en prière, tu seras éteint. Dans toutes les réunions, tu seras fermé. Allô, téléphone.
Allô,
nous te surveillons.
De leur vie, de leur parcours et se livrent à cœur ouvert. Grand Témoin invite des femmes et des hommes de culture, des acteurs politiques, sociaux et du monde économique qui ont croisé différents événements et les changements qui ont accompagné les grandes étapes de la construction du pays. Grand Témoin, 45 minutes pour mieux comprendre notre histoire commune, racontée par ces acteurs. Tous les dimanches, 12h15, heure de Kinshasa, en compagnie de Kéline Couté sur Radio Okapi.
Grand Témoin vous présente aujourd'hui Dr Richard Mukalenge Tchenda. Il est médecin spécialiste en santé publique, ancien médecin directeur de l'hôpital général de référence de Lukula au Bas-Congo, dans le Bas-Fleuve. Dr Richard Mukalenge, après cette expérience de la territoriale de développement dans la décentralisation que vous avez vécue à l'hôpital de Lukula dans le Bas-Congo, est-ce que vous pensez qu'on peut refaire cette politique aujourd'hui?
On doit refaire ça. Mon expérience est une école. Ok? Je ne me suis pas arrêté seulement à construire des bâtiments. Ok? J'ai aussi proposé des solutions à la haute hiérarchie. Il y a eu une épidémie à Lukula suite à l'inondation. C'était une épidémie de diarrhée ressemblant au choléra. Dans le cours de cette épidémie, il y avait pénurie d'eau à Lukula. Qu'est-ce que j'avais fait? J'ai pris ma plume, j'ai rédigé un papier pour adresser cette lettre-là au feu maréchal Mobutu. Pourquoi? Parce que lui seul pouvait permettre que la régie des eaux cohabite avec les services nationaux d'hydraulique rurale. Quand j'ai fait comme ça, le secrétaire de l'hôpital a dit, ce type ici va partir. Comment il peut oser écrire au feu maréchal Mobutu? Comment il peut écrire au président? Je suis allé faire voir cette lettre à monsieur le bourgmestre, monsieur Batoube Ngantoka. Il a dit, mais c'est ton domaine. Annexe, il faut qu'il y ait des soubassements montrant la gravité de... c'est toi qui as reçu les malades. Ok, la gravité du problème. Il faut faites une sorte de statistique et puis tu envoies, tu me gardes la copie. J'avais fait ça. La lettre est partie. Et la lettre est arrivée. Qu'est-ce que j'avais remarqué deux semaines après ou trois semaines, lorsque la poste marchait encore bien? Le sous-directeur du bureau du président est venu à Lukula avec le DGA de la régie des eaux. Voilà, ils sont arrivés. Pour faire le constat, les gens ont dit, ah voilà, on va l'arrêter. Voilà. Donc, c'était vrai. Il y avait un problème de pénurie d'eau à Lukula. C'est ainsi que vous avez aujourd'hui. Donc, quand le sud-directeur est arrivé, Que Dieu me fasse grâce pour que je, ma mémoire retrouve le nom de cette personne. Ok. Et il a dit, dans 2 semaines, on viendra forer. On fera des forages ici, vous aurez... Alors, on a implanté à Lokola 2 semaines après.
Ça a été fait.
Ça existe jusqu'à aujourd'hui, des pompes aspirantes foulantes. C'est ça la territoire de développement dans la décentralisation. C'est ça. Ok. Et... On a fait le forage en périphérie de Lokola. Là, il y avait des gens qui habitaient dans Bangunza, Maoussa, etc. Ok, ces pompes aspirantes foulantes existent jusqu'à aujourd'hui.
Mm-hmm.
Voilà ce que moi j'appelle encore territoire de développement.
Donc okay. Vous pensez que ça devrait s'appliquer?
Ça doit s'appliquer. Quand j'entends les gens dire nous aurons demain notre province, c'est très bien. Ils cogitent sur quoi? Pour développer cette province. Moi, j'appelle développement, c'est quoi? C'est le fait d'enlever les enveloppes. Les enveloppes sont des problèmes. Parce que développer, c'est le contraire d'envelopper. Est-ce qu'ils ont énuméré les enveloppes qui les empêchent de décoller? C'est ce que j'avais dit peut-être un jour ici, dans l'émission Parole aux auditeurs de Pierrot. Vous savez qu'il y a la famine en Mbujimayi. Vous savez pourquoi? Parce que le Mouluba de Mbujimayi est resté consommateur du maïs. Il ne veut pas ajouter le sorgho. Il ne veut pas ajouter le mil. Pourquoi il ne veut pas? C'est parce qu'il n'est pas développé. Il est enveloppé par une alimentation très basse. Malgré tous les diplômes de tous ces gens qui sont là-bas, ils sont enveloppés par l'alimentation très basse. Donc, c'est une enveloppe à enlever, à dégager. Pour moi, c'est ça ma façon de saisir le terme développé. Okay? Un coin, développer une contrée, développer une province. Est-ce que nous réfléchissons de la même manière? Développer un coin, ce n'est pas construire des buildings ou faire de grandes avenues. C'est d'abord assurer la survie de cette communauté par l'alimentation.
Alors, Dr. Richard, c'était un plaisir de vous recevoir dans cette émission. Il y a beaucoup de choses à dire. Hein. Vous avez peut-être un dernier mot à dire à tous ces auditeurs qui nous suivent en ce moment.
Bon, un dernier mot, c'est-à-dire, j'ai vécu la territoire de développement telle que je suis en train de la décrire. Donc, la décentralisation, la bonne pour développer nos provinces, nos communes, c'est de savoir étiqueter les problèmes et présenter aussi les solutions. Il faut que les solutions partent de la base. Voilà ce que je peux dire en dernier mot.
Merci docteur et bon dimanche.
Merci à vous aussi.
Et grand témoin, c'est fini pour aujourd'hui. Je rappelle que je recevais Dr. Richard Mukalenge Tchenda. Il est médecin spécialiste en santé publique et ancien médecin directeur de l'hôpital général de référence de Lokola au Bas-Congo. Nous sommes là dans le Bas-Fleuve. Merci à Jean-Claude Siala qui était à la prise de son. Au micro, Kéline Couté, vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet www.radiocapi.net. Bon dimanche chez vous et bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.